Chapitre 8. La pièce est complètement obscure, mais donne l'impression d'être petite, à peu près de la taille du dressing de l'étage. Je plisse les yeux pour scruter l'espace sombre, attendant que mon regard s'y adapte. Je fais un pas de plus et quelque chose me heurte le visage. Je pense d'abord qu'il s'agit d'une toile d'araignée, puis je me rends compte qu'il s'agit d'une cordelette. Je tâtonne un moment, essayant de l'attraper. Puis mon doigt entre en contact avec le cordon, que je tire, et un autre déclic retentit en même temps qu'une ampoule s'allume. Je crois que mes yeux vont sortir de leurs orbites à mesure que je découvre le contenu de la pièce. J'avais raison à propos de sa petite taille. Une partie de moi redoutait d'y trouver un cadavre caché, mais non. L'endroit est rempli d'autres bibliothèques, coincées dans chaque espace disponible. Mais ces bibliothèques ne contiennent pas de livres. Elles sont couvertes de cassettes. Il doit y en avoir, bon Dieu, je ne sais même pas, des milliers. Et chacune est étiquetée de la même façon. Des initiales, suivies d'un numéro, puis d'une date. Pour ce que j'en vois, les dates semblent remonter à près de 10 ans, et il y a des dizaines d'initiales différentes. La rangée devant moi porte les initiales PL. Les mêmes que celles du sujet principal, présenté dans le best-seller du Dr. Hale, L'anatomie de la peur. Pourrait-il s'agir de la même personne? S'agit-il des enregistrements des séances de PL? Il y a une bande étiquetée différemment. Elle est collée à la fin d'une des rangées, et tout ce qu'elle indique, c'est un mot en grosses lettres capitales. Look. Le nom me dit vaguement quelque chose. Look. N'est-ce pas le nom du petit ami qu'on a soupçonné du meurtre d'Adrienne Hale? Il y a des années, l'affaire a fait la une de tous les journaux et de toutes les chaînes d'information. La disparition du docteur Adrienne Hale. Je me demande si la police était au courant de l'existence de cette pièce cachée. Au loin, j'entends Ethan m'appeler. Il a probablement allumé le chauffage. Je suis sûre qu'il se demande pourquoi je m'attarde autant dans la salle de bain. Je n'ai pas la réputation d'être rapide à la salle de bain, mais même pour moi, là, ça commence à faire long. « 1 minute !» je crie. Sous le coup d'une impulsion, j'attrape l'une des nombreuses cassettes PL sur l'une des étagères et la glisse dans la poche de mon manteau. Puis je tire sur le cordon qui pend du plafond et la pièce est replongée dans l'obscurité. Je sors et, en remettant la bibliothèque en place, j'entends un clic rassurant. Quand je recule maintenant, je ne saurais même pas dire que la pièce cachée existe. Je me dépêche de retourner dans le salon, où Ethan se tient devant le canapé. Une bouteille de vin dans la main droite, il sourit jusqu'aux oreilles. « J'ai mis le chauffage en route !» Je frissonne. « Il fait encore froid !» Il va falloir un peu de temps pour chauffer un tel volume. Il désigne d'un signe de tête l'immense espace de vie. J'aimerais lui faire remarquer que si nous emménagions ici, nos factures de chauffage seraient astronomiques. Mais Ethan tient suffisamment d'argent de sa famille pour ne pas s'inquiéter de ce genre de choses. Tu as trouvé la salle de bain?
Oui.
J'enfonce ma main droite dans la poche profonde de mon manteau et je sens la forme rectangulaire de la cassette. Ce serait le moment de lui faire part de ma découverte. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais il ne voudra pas que j'écoute ses cassettes. Il me dira que ce ne sont pas mes affaires. Il se plaint toujours que je suis trop curieuse, que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je ne suis pourtant pas une fouineuse. J'ai juste une curiosité, tout ce qu'il y a de naturel. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Et regarde, j'ai trouvé quelque chose pour nous réchauffer en attendant. Ethan brandit la bouteille de vin couleur sang. Ah? Il baisse la bouteille pour lire l'étiquette. C'est un Cabernet Sauvignon, de Stellenbosch, Afrique du Sud. Un vin d'Afrique du Sud? Ouais, ils font beaucoup de bons cabernets là-bas. Ethan sait ce genre de choses. Il est assez expert en vin. Il peut vous dire quelles régions sont les plus propices pour tel ou tel type de vin, quelles notes sucrées ou acides doivent être recherchées dans un cépage et quelle place accorde le mieux avec. La plupart du temps, je me contente d'acquiescer et de faire semblant de comprendre de quoi il parle. Alors tu as volé une bouteille de vin.
Oh, ce n'est pas un grand vin,
se justifie-t-il sur la défensive. Je ne sais pas si c'est vrai, car Ethan n'est pas du genre à boire quelque chose de bon marché. Il doit donc au moins s'agir de quelque chose de correct. Son vin préféré est le Cheval Blanc.
Et puis de toute façon, c'est la faute de Judy, qui nous a fait venir ici en plein blizzard et qui n'est même pas venue elle-même. On a besoin de quelque chose pour se changer les idées.
Je suis sûre que Judy n'était pas au courant qu'il y aurait du blizzard. Trop tard,
Ethan est déjà en train de verser le vin dans deux verres qu'il a posés sur la table basse devant la cheminée. Il s'assied sur le canapé et je vais le rejoindre. Il prend l'un des verres à vin, rempli presque à ras-bord du liquide rouge foncé, et je fais de même à contre-cœur. Il entrechoque son verre au mien. À notre nouvelle maison! Oh mon Dieu! Ethan boit une longue gorgée pendant que je réfléchis à ce que je vais faire du mien. Je ne peux pas boire ça. Peut-être une gorgée ou deux, mais pas cet énorme verre, ni de vin, ni même de quelque chose d'approchant. Et je ne peux pas dire à Ethan pourquoi, parce qu'il ne sait pas que je suis enceinte. Eh oui, je suis en cloque. Mes règles ont 2 semaines de retard. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait pipi sur un bâtonnet et sont apparues ces 2 lignes roses qui vont changer toute notre vie. Je suis terrifiée à l'idée de lui révéler mon petit secret. Avant de nous marier, nous nous sommes dit que nous voulions des enfants. J'ai une sœur, mais Ethan est fils unique et ses parents sont décédés. Donc nous étions tous les deux d'accord avec l'idée de fonder une famille à nous. Mais pas dans un avenir proche, nous étions aussi d'accord là-dessus. Nous sommes relativement jeunes et tenions à avoir la possibilité de voyager ensemble, de profiter l'un de l'autre pendant quelques années avant d'avoir un bébé. 2 ans minimum, puis nous commencerions à essayer. Voilà ce que nous avons décidé. Et me voilà, 6 mois à peine après notre mariage, un bébé en route. Ce n'est pas ma faute. Je prends religieusement ma pilule contraceptive. J'ai même programmé une alarme sur mon téléphone pour ne pas oublier. Mais j'ai eu une infection respiratoire le mois dernier et j'ai pris les antibiotiques qu'on m'a prescrits aux urgences. Apparemment, ils ont diminué l'effet de ma pilule. Qui l'eût cru? Je suis absolument terrifiée à l'idée de la prendre à Ethan. Attendre pour avoir des enfants, ça lui tenait à cœur. Il voulait que nous ayons ce temps pour nous. J'ai tout bonnement ruiné tous ses projets. Et je ne sais pas trop comment il va le prendre. Pas bien, je suppose. Ethan est colérique. Il ne s'est jamais déchaîné contre moi, mais je l'ai vu faire. Il est PDG d'une petite start-up qui est en train de décoller, et je l'ai entendu une fois au téléphone avec l'un de ses employés qui avait fait une bourde. J'ai été sidérée par la façon dont il criait sur ce pauvre gars au bout du fil. Je ne l'avais pas imaginé capable de ça. Rappel inquiétant que je ne connais mon mari que depuis un peu plus d'un an. Je ne sais pas encore exactement qui il est, ni quel est son caractère. Du coup, voilà 1 semaine et demie que je garde ce secret. Je dois le lui dire, et vite, mais je redoute ce moment de toutes les fibres de mon être. Je ne veux pas qu'il me crie dessus comme il l'a fait avec cet homme au téléphone. La nouvelle va constituer la fin officielle de notre lune de miel. Je me demande si le moment ne serait pas venu. Il vient de réussir à faire fonctionner le chauffage, il est tout excité à l'idée d'acheter cette maison, même s'il n'est absolument pas question qu'on vive ici, et il a un verre de vin à la main, sur lequel il attend avec impatience que je lui donne mon avis. Je devrais le lui annoncer maintenant, ce serait logique. Mais je ne le fais pas. Non, je renverse le verre de cabernet et j'en humecte un peu ma langue. Puis je me lèche les lèvres. Délicieux. Tu sens la note de menthol? Oui. Ethan boit encore une longue gorgée de son vin, et moi une autre fausse du mien. Il me prend une main, que je lui abandonne. « C'est agréable, » soupire-t-il. « Il serre ma main et ses yeux bleus se perdent dans le lointain. « Je nous imagine très bien vivre ici, dégustant ensemble une bouteille de vin, un bon vin, pendant que la cheminée brûle et nous garde au chaud. Et quelques enfants qui courent autour ?» J'ajoute en observant sa réaction. Il rit. Peut-être dans quelques années. Au moins, il n'a pas complètement paniqué à cette perspective. C'était sans doute trop espéré qu'il réponde à l'instant où je mentionnerai des enfants. « Oui, j'ai totalement changé d'avis. Faisons tout pour que tu tombes enceinte tout de suite. » Il se rapproche de moi et m'attire contre lui d'un bras passé autour de mes épaules. Ça me donne une excuse pour reposer mon verre sur la table basse. C'est vrai que c'est agréable et confortable de se blottir contre lui sur le canapé. Cette maison n'est peut-être pas si mal. Il a l'air de l'adorer. Et si nous décidons de vivre ici, ça atténuera le choc de ma grossesse surprise. Mais je tourne les yeux vers la cheminée, vers le portrait du docteur Adrienne Hale. J'ai l'impression qu'elle nous fixe de ses yeux verts perçants, là-haut, avec ses cheveux qui flamboient autour de son visage. Je laisse échapper un frisson. « Toujours froid ?» murmure Ethan dans mes cheveux. « Non. »
Il suit mon regard jusqu'au portrait accroché au mur. Ses yeux s'assombrissent comme lorsqu'il l'a vu la première fois. Je lui adresse un sourire penaud. Désolée, c'est ce truc qui me donne la chair de poule. Un muscle se crispe dans sa mâchoire. Ouais, je le déteste aussi. Laisse-moi m'en occuper. Quoi ? Avant que je puisse lui demander ce qu'il fait, Ethan saute du canapé et marche d'un pas décidé vers la cheminée. Il saisit le lourd cadre en bois du portrait et le décroche du mur. Il abaisse le tableau au sol et, après un moment d'hésitation, l'appuie contre le mur, face à l'envers. Je serre l'une contre l'autre mes mains soudain moites. « Ethan, tu ne peux pas faire ça !»«
Pourquoi pas ? Je le remettrai en place avant de partir. Ce n'est pas comme si ça risquait de la gêner, elle. »
J'observe l'espace désormais vide au-dessus de la cheminée, incapable d'exprimer le sentiment de malaise au creux de mon ventre. Nous sommes là, à passer la soirée dans la maison du docteur Adrian Hale, à boire son vin, et maintenant à décrocher son portrait du mur. En plus, j'ai volé une des cassettes de sa pièce secrète. Je ne crois pas aux fantômes, mais s'ils existent, le sien doit être furax en ce moment. Ethan n'a pas du tout l'air de s'en préoccuper, lui, maintenant qu'il a décroché la peinture et qu'elle ne nous regarde plus. Il se rassied à côté de moi sur le canapé et tire sur le bouton du haut de mon manteau en laine.
Tu penses qu'il fait assez chaud pour l'enlever ?
La pièce s'est considérablement réchauffée au cours de la dernière demi-heure. Je le laisse défaire les boutons de mon manteau. Une fois l'opération terminée, il m'embrasse dans le cou. D'habitude, c'est mon point faible, ça me rend folle. Mais là, je ne ressens rien.
On devrait baptiser notre nouvelle maison,
murmure-t-il dans mon cou. Je lui rends son baiser, essayant de convoquer un peu d'enthousiasme tandis qu'il s'attaque aux boutons de mon jean. Mais rien à faire. Je n'arrive pas à apprécier comme d'habitude. Même si le portrait est retourné, je sens toujours les yeux verts du docteur Hale me transpercer.